les jardinières.
Bonjour à tous, bonjour Eileen.
Bonjour Sandra.
Ce matin, c'est avec plaisir que nous recevons Catiou Racine, jardinière à Delémont. Catiou, bonjour.
Bonjour.
Ce week-end, de nombreux d'entre vous vont cacher les œufs dans leur jardin. Ce matin, avec vous Catiou, nous ne parlerons pas de la manière de faire pousser des lapins dans son jardin, mais de ce qu'on peut faire afin de rendre attractif et joli ses alentours et ce fameux jardin, et de surcroît de ce qu'on peut faire en avril dans son potager. Catiou, vous êtes également là pour répondre à toutes les questions que vous qui nous écoutez, vous nous poserez.
Bah oui, vous pouvez faire une petite pause dans votre chasse aux œufs et nous poser toutes vos questions, par exemple via le formulaire qui se trouve sur notre site internet, si vous nous écoutez depuis votre ordinateur, ou alors par SMS, vous tapez tout simplement le mot jardin, suivi d'un espace, puis de votre question, et vous nous envoyez le tout au 939. Et bien sûr, jusqu'à 8h, vous pouvez également nous appeler pour poser directement la question à Catiou Racine en composant le 0901. 70 20 20 pour 36 centimes à la minute.
Bienvenue chez les jardinières. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h.
7h, 8h. Les jardinières.
Et par formulaire en cette semaine, Pascal, nous avons reçu une question de Sandy.
Oui, Sandy se demande s'il est possible de faire pousser des bambous en habitant à 1100 mètres d'altitude, Catiou.
Alors oui, il est bien possible de faire pousser des bambous à peu près à n'importe quelle altitude, parce qu'il faut savoir que le bambou en forêt tropicale ou subtropicale peut pousser jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Le seul ennemi qu'il aurait chez nous, c'est le gel. Hein, évidemment, c'est que chez nous, à 1100 mètres d'altitude, il fera plus froid et il gèlera plus facilement. Mais le bambou étant une plante vraiment facile et à la limite envahissante, il se peut qu'elle gèle en hiver, mais par contre qu'on ait l'impression qu'elle soit vraiment morte pendant cet hiver et elle reprendra au printemps. Donc oui, il est tout à fait possible de planter du bambou en altitude.
Et est-ce que ça demande un entretien un peu particulier ou bien...
Un entretien, non, mais par contre, il faudra être vigilant à la plantation. Le bambou, il existe deux sortes de bambous. On appelle ça des traçants. Donc, c'est un bambou qui va proliférer dans le sol de façon presque non maîtrisable. Et puis, il y a le bambou qui est non traçant. Donc, celui-là, on pourra bien le maîtriser. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on plantera notre bambou, déjà, quand on va l'acheter, il faut se renseigner laquelle des deux sortes c'est. Et ensuite, il faudra préparer le sol de manière à ce qu'on ne soit pas embêté par la suite. C'est-à-dire, pour un bambou traçant, donc celui qui va se propager facilement, on va mettre une barrière anti-rhizome. Une barrière anti-rhizome, c'est une sorte de plastique rigide qu'on va mettre à la verticale dans le sol. Il faut compter environ 60 cm de profondeur pour qu'on soit bien tranquille. Donc le bambou est vraiment envahissant, attention. Et on va délimiter l'endroit où ce bambou va être planté avec cette barrière anti-rhizome. Pour un bambou traçant, il faut compter à peu près 3 mètres carrés pour qu'il puisse s'établir correctement. Donc on va creuser, mettre cette barrière anti-rhizome de manière bien fermée. On va lui faire un parc en quelque sorte. Et puis on va planter notre bambou dans ce parc. Et là, on n'aura aucun problème qu'il aille chez le voisin ou qu'il envahisse notre gazon ou autre chose. Et puis pour le bambou non traçant, celui-là, on pourra le placer à peu près où on veut. On va lui proposer à peu près 1 mètre carré de surface pour qu'il puisse être à l'aise. Et puis voilà, après, si on n'a pas la possibilité de mettre cette barrière anti-rhizome, on peut très bien maîtriser ça. C'est-à-dire qu'au printemps, le bambou va sortir des chaumes. Les chaumes, c'est les pousses. Et si on coupe cette pousse à la base, ça stoppe net la pousse du bambou à cet endroit-là. Donc, un bambou qui est entretenu n'envahira pas. Mais il faut l'entretenir, ça c'est clair.
Et si Sandy, elle a envie de planter son bambou maintenant, c'est possible ou bien il y a une période qui est plus propice à la plante du bambou?
Non, on peut le planter toute l'année. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, si on regarde la météo qui va suivre la semaine prochaine, je lui déconseille un peu de le faire maintenant. Si elle peut attendre encore une semaine, qu'il revienne un petit peu chaud, il n'y a pas de problème.
On a aussi Roger de Seignelégier qui nous demande, enfin il aimerait planter des herbes aromatiques dans des pots sur son balcon, qui ne demande aucun entretien. Est-ce que vous avez des idées de plantes aromatiques qui ne demandent aucun entretien, Catiou?
Alors oui, on n'a aucun entretien, c'est pas possible parce qu'il faudra quand même juste les arroser. Donc
voilà. Un minimum, demande, quand même.
Un minimum quand même. Mais oui, on peut planter beaucoup de choses dans les plantes aromatiques. On peut mettre du romarin, on peut mettre du thym, on peut mettre de la sauge. On évitera le persil et le basilic parce que c'est des plantes qui ont besoin d'entretien, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de beaucoup, beaucoup d'arrosage. Donc s'il veut vraiment un entretien minimum, on évitera ces deux-là. On peut mettre de la ciboulette, on peut quasiment tout mettre. Plus les feuilles sont drues et épaisses, plus ça sera facile à entretenir. Plus c'est fin et plus c'est frêle, plus c'est compliqué à entretenir. Et comme la ciboulette, il pourra sans problème la laisser en pot d'une année à l'autre, elle reviendra sans problème. Par contre, il faudra juste faire attention de s'il vient du gel, de protéger un petit peu ses pots selon la taille du pot. Si c'est un pot de 20 cm de diamètre, on doit le protéger. Si c'est un pot qui fait 50 cm de diamètre, il n'y a aucun problème.
Cathieu, vous êtes là pour répondre aux questions des auditeurs et d'ailleurs on vient de recevoir un SMS de José d'Auvergne qui nous écoute donc et qui aimerait savoir, enfin qui nous demande, quand je plante des plantons de salade, elles sont toutes attaquées par le fil de fer, que faut-il faire ?
Ça devient compliqué. Le ver fil de fer, juste pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est un petit ver qui se trouve déjà en général dans la motte lors de l'achat des plantons dans le magasin ou à la jardinerie. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop, ça dépend de quel côté on se tient. Depuis quelques années, on a beaucoup de produits qui nous aidaient contre ce ver fil de fer qui ont été supprimés de la vente parce que les gens l'utilisaient peut-être aussi de façon pas très correcte.
Et c'était des produits nocifs, c'est pour ça ou bien
c'était... Alors, tous les produits sont nocifs, après l'utilisateur les rend nocifs. C'est-à-dire que quand on dit à une personne il faut mettre 15 ml de produit pour un litre d'eau, bien souvent ils en mettent 30. Donc voilà, c'est parce qu'on les a mal utilisés qu'ils ont été retirés de la vente. Maintenant, le ver fil de fer, donc, il est dans la motte. Et qu'est-ce qu'il fait quand on plante la salade? Il monte dans le cœur de la salade et le petit planton, au bout de 3 jours, il est complètement sec et puis il dépérit. Il existe quelques produits encore dans les grandes surfaces ou bien chez le jardinier qui peuvent aider, mais ce qu'il faudrait faire, c'est ce produit-là, je ne vais pas donner une marque parce que ça ne se fait pas, paraît-il, mais on trempe les plantons dedans avant de planter. Donc il faut qu'ils se rendent chez un spécialiste qui demande le produit, et puis avant la plantation, il faut qu'ils fassent un bain avec la motte en fait, du planton. Et puis ça l'aidera un peu, mais il n'y a pas de miracle, je dirais.
Il faut être patient et des fois juste attentif à ce qui est donc écrit sur les produits, en fait.
C'est exactement ça. Il faut les utiliser vraiment correctement et puis pas les évacuer n'importe comment non plus.
Puis comme vous l'avez expliqué, c'est important de bien respecter les dosages. Ça ne sert à rien d'en mettre plus parce que de toute façon, ça ne va absolument rien changer.
Non, de toutes les manières, parce que les gens qui font leur jardin eux-mêmes pensent qu'ils ont des produits qui sont plus naturels et moins chimiques et plus bio. Et finalement, selon comment ils utilisent leurs produits, c'est bien plus chimique que ce qu'ils peuvent acheter en grande surface ou voilà quoi. Donc attention, soyez prudents avec ça.
Cathieu, vous êtes là avec nous jusqu'à 8h dans les jardinières. Vous êtes là également pour répondre aux questions des auditeurs. Question que l'on attend donc par téléphone au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute ou alors tout simplement par SMS comme vient de le faire José d'Auvergne. Vous tapez le mot jardin suivi d'un espace puis de votre question et vous nous envoyez tout ça au 939. On y répondra avec grand plaisir juste après une petite pause musicale.
Les jardinières.
Nous sommes ensemble jusqu'à 8h en compagnie de Cathieu Racine. Et vous qui nous écoutez, si vous avez des soucis avec votre potager, avec votre gazon, avec votre verger, avec vos arbres fruitiers, avec tout ce qui concerne le jardin, n'hésitez pas à nous appeler. Eileen.
Exactement, on vous attend par téléphone jusqu'à 8h. N'hésitez pas à composer le 0901 70 20 20 pour 36 centimes à la minute. Ou alors si vous voulez nous envoyer un petit SMS et vous poser directement votre question par SMS, ça, c'est également possible. Vous tapez le mot jardin suivi d'un espace, puis de votre question et vous nous envoyez tout ça au 939. D'ailleurs, on vient de recevoir une question de Joël par SMS qui nous demande « Je souhaiterais faire pousser des calendules, des soucis cette année, mais n'ayant pas vraiment la main verte, j'aurais voulu savoir quels sont ses besoins, par exemple la lumière, l'arrosage, le gel, etc. » Et en plus de ça, il nous précise que Joël, elle habite à 1000 mètres d'altitude. Cathieu.
Alors, le calendula, il pousse aussi, il est un peu comme le bambou, il pousse un peu tout partout, c'est pas vraiment un problème. Et puis, c'est bien de commencer avec cette plante-là, parce que c'est quelque chose d'assez facile à entretenir et puis à faire pousser. Maintenant, il serait bon de savoir un petit peu où et comment elle voudrait faire, où il voudrait faire ça. Joël, ça peut être monsieur ou madame. Donc voilà, je vais expliquer un peu les deux façons. Le calendula, on peut très bien le mettre en pleine terre, donc ça se trouve sous forme de graines à l'achat. Donc on peut planter ça, on peut faire un joli massif de calendula. On le sèmera à la volée, c'est-à-dire qu'on prendra les graines et qu'on les éparpillera à la main sur un terrain qui a été au préalable préparé de manière assez fine. C'est-à-dire qu'il faudra, si c'est sur un sol nu, on va dire que la terre est, qu'il n'y a rien dessus, il faudra faire vraiment une terre très fine qu'on affinera avec un râteau ou un autre outil. Et puis semer ça à la volée, le recouvrir légèrement, c'est pas forcément pour la germination, c'est plutôt pour éviter que les oiseaux viennent se servir, parce qu'ils aiment bien les petites graines. Et puis ensuite, on arrosera de manière modérée jusqu'à ce que ça germe. Ça, c'est à faire plus tard. Maintenant, c'est un petit peu trop tôt, parce que suffit qu'il vienne des petites pousses et puis qu'il revienne un petit coup de froid là-dessus, et puis tout va geler. Donc, ça sera dommage, parce que ça sera perdu. Donc, on va dire d'ici 2-3 semaines, on pourrait faire ça sans problème. Puis après, on laisse pousser tranquillement. Ce qu'il faut faire attention, si on sème vraiment à la volée, puis qu'à certaines places, on a mis trop de graines, il viendra des grosses touffes. Donc là, il faudrait éclaircir un peu, parce que sinon, les plantes vont se chevaucher et puis elles ne pourront pas se développer de manière correcte. Et puis ensuite, le calendula, on pourra aussi le semer dans des pots, mais là, il faudra quand même des pots de taille assez grande, parce que si on met 100 graines sur un pot de 20 cm, il ne va rien pousser. En fait, il va venir que des petite plantule verte, et puis tout va s'étouffer l'un l'autre. Donc à planter, et puis ensuite c'est un entretien comme une plante vivace, c'est-à-dire que à l'hiver ça va sécher, faner, on va laisser ça tranquille. Les plantes vivaces en général, on les nettoie un petit coup à la fin de la saison, on laisse passer l'hiver, et puis après au printemps, quand on voit que ça reverdit, on enlève tout ce qui est sec pour faire de la place et puis aérer. Donc voilà.
Catiou, vous êtes également là pour répondre aux questions que l'on reçoit par téléphone. Et d'ailleurs, on a quelqu'un qui est avec nous. Bonjour.
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 Oui, c'est Sandra, c'est le Michel.
Bonjour. Bonjour Michel, vous avez une question.
Je suis bourré d'orties. Alors bon, j'ai décidé de tout arracher des racines, c'est le seul moyen. Mais l'autre côté, au ruisseau, c'est droit un champ d'orties. Alors je ne veux pas m'amuser à arracher toutes les racines. Alors comment faire pour les supprimer?
Bonjour Michel. Ces orties, il faudrait pouvoir les traiter. Il existe, déjà, il faut savoir si vous avez le droit de le faire ou pas, si c'est chez vous ou pas. Il faut faire attention avec ça. Il existe des produits, par contre, vous ne trouverez pas ces produits dans le commerce, vous les trouverez plutôt dans des commerces agricoles. Donc, ça sera plutôt un produit chimique qui sera adressé à l'agriculteur. Il existe un produit phytosanitaire, donc, qui est vraiment fait pour ce qu'on appelle en gros des broussailles, c'est-à-dire quelque chose qui pousse de manière forte et naturellement. Et puis vous pouvez traiter donc avec un pulvérisateur contre ces orties. C'est très très efficace, ça fera très bien son boulot, mais il faut voir si vous avez le droit de le faire ou pas.
Je sais pas, ouais, mais les graines, ça va tout partout après. Parce que moi, j'ai tout arraché. Alors, ils poussent plus où on arrache les racines. Mais s'il y a les fleurs, moi, je vais les couper. Mais pour finir, il y a bientôt un champ.
Bien sûr, je comprends bien ce que vous me dites. C'est pour ça qu'il faudrait les traiter avant que ça soit en fleurs. Après, évidemment, si on a 100 mètres carrés, c'est pas forcément évident de traiter ça.
Oui, justement. Bon, il y a 7-8 mètres sur 2 mètres, en tout cas.
Oui. Alors ça, c'est faisable. Vous pouvez les traiter avec ce produit-là. Vous trouvez un commerce agricole dans la région. Il y en a quelques-uns. Et puis, vous faites ce traitement quand les orties sont encore au stade où elles ne sont pas en floraison. Évidemment, dès qu'elles sont en floraison, la nature est la nature. Donc, les graines se propagent toutes seules. Donc, voilà, à faire vraiment avant la floraison.
Et voilà, Michel.
Oui, la floraison.
De quoi faire.
Mais si je me... piqué, je le sens, 48 heures, ça me pique énormément.
Ah ouais, les orties, c'est pas très sympathique, effectivement, Michel. Mais vous aurez de quoi passer des journées.
Rien, mais deux jours. Hein.
Oui, alors j'imagine, c'est pas très sympathique. Du coup, va falloir vous occuper de vos orties, puis mettre une petite crème protectrice, hein. Ou un pantalon.
Ou des gants.
Je vais éliminer, ouais.
Ok, merci beaucoup, Michel. Passez un excellent week-end de Pâques.
journée, bonne fête.
À bientôt, à vous aussi. Au revoir, Michel. Merci. Et c'est le moment pour nous eh bien, de se retrouver tout à l'heure. Hein. Vous avez reçu, Eileen, encore de nombreux SMS. On va y répondre tout à l'heure. Nous serons à nouveau en compagnie de Catio Rassi, jardinière. Et oui, de retour dans les jardinières, chez les jardinières. Bienvenue jusqu'à 8h, on est ensemble. Et ce matin, nous sommes ensemble avec Catio Rassi qui vient renforcer le team des jardinières afin de répondre à toutes les questions qui vous taraudent et que vous vous posez concernant votre jardin.
Et d'ailleurs, une question, on en a une hein, par téléphone. C'est Véronique qui nous a appelé. Bonjour Véronique.
Bonjour Véronique.
Oui, bonjour.
Allez-y Véronique, on vous écoute.
J'ai une question. J'ai l'occasion de récupérer un cœur de Marie qui est assez grand dans un jardin qui va être détruit. Est-ce que je peux le transplanter maintenant ? Il est en fleur. Hein ?
Bonjour Marie. Non, c'est pas Marie, c'est Véronique. Excusez-moi, c'est le cœur qu'est de Marie.
Oui.
Pas
c'est le cœur qu'est de Marie, oui.
Bon, c'est joli aussi, les deux prénoms, pas de problème. Oui, oui, vous pouvez le faire maintenant, il n'y a aucun souci. Il faut juste veiller vous l'avez déjà sorti de terre ou bien pas encore?
Non, j'attendais de vous appeler parce que, voilà, comme il est en fleur, ça me pose problème. J'aimerais pas qu'il meure.
Oui, il est grand, quelle taille il fait à peu près?
Alors au sol, il fait à peu près, qu'est-ce que je dirais, 30 par 30. Oui, il est grand.
Oui, alors il faut vraiment le sortir. Il faudrait en tout cas doubler la grandeur au sol. C'est-à-dire qu'il faudrait minimum creuser sur 60-60, de manière à ce qu'on casse vraiment un minimum de racines. C'est ça qui est important quand on a une plante qui est en végétation déjà, qui est partie, bah, puis qui est en fleur en plus. Moins on l'abîme, bah, c'est un tout petit peu logique, quoi. Moins on l'abîme, bah, plus elle se portera bien et puis elle arrivera vraiment après à continuer. Continuer sa croissance. De toutes les manières, quand vous l'aurez remis en terre, ça va lui faire un choc hein, d'être changé de place maintenant. Si vous n'avez pas le choix, mais vous pouvez le faire sans problème, parce que la plante ne va pas mourir. Ça va juste ralentir un petit peu cette floraison, pas la ralentir, la raccourcir, mais vous pouvez le faire. Donc creusez vraiment une grande motte de manière à casser le minimum de grosses racines. Après, toutes les petites radicelles qu'on peut casser lors de la transplantation d'une plante, c'est pas bien grave, parce que ça lui donnera justement à l'opposé un petit coup de fouet si on l'abîme un tout petit peu. Mais voilà, ça va être un sacré job. Sinon, si vous avez le choix, attendez encore un tout petit peu pour profiter encore de la floraison là où il est et puis de le transplanter plus tard.
D'accord. Et puis maintenant, j'ai une autre question au niveau de l'emplacement. J'ai le choix entre deux endroits, en fait. C'est-à-dire dans mon potager, mais plein soleil, enfin sur la bande, mais en plein soleil. Mm-hmm. J'ai un potager très ensoleillé.
D'accord.
Ou j'ai une bande aussi où il y a des arbres, c'est-à-dire un frêne et tout, qui donne de l'ombre.
Non, alors mettez-le en plein soleil. Tout ce qui est plante à floraison, il faut essayer de... on parle donc de plantes vivaces, là. Il faut privilégier plutôt les endroits ensoleillés, parce que si vous le mettez sous d'autres arbres, d'autres végétaux qui sont bien plus grands, et bien justement, il aura bien moins de soleil et puis la floraison sera vraiment réduite. Il fera un petit peu de fleurs, mais vu qu'il n'aura pas assez de lumière, pas assez de soleil pour fleurir, donc il sera un petit peu pénalisé. Alors si vous avez la possibilité de le mettre en plein soleil, faites-le. Par contre, si vous le plantez dans une période où il fait quand même beau et chaud, veillez bien au début de bien l'arroser le temps qu'il reprenne et puis lui mettre un bon petit coup d'engrais cet automne pour qu'il puisse passer l'hiver tranquillement.
D'accord. Et maintenant qu'il va faire froid, parce qu'en fait, j'ai pas vraiment le choix. Je peux récupérer des plantes dans un jardin qui va être détruit. Hein,
oui, donc, d'accord.
Alors, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse, mais celui-là. maintenant, je voulais le faire. maintenant, je voulais le faire maintenant, mais il va faire froid.
Oui, mais les sols sont réchauffés maintenant, donc il n'y a pas de problème. C'est plutôt les parties basses qui sont sensibles que plutôt les parties aériennes. Ça, c'est dans toutes les plantes qu'on a par chez nous. Donc, le sol s'est bien réchauffé. Il y a quand même fait des belles journées là depuis quelques semaines. Donc vous pouvez sans autre le changer de place, même s'il viendrait à geler à moins 2 ou moins 3, ça n'atteindra jamais les parties basses vraiment profondes de la plante. Et puis quand vous le replantez, ce qu'il vous faut faire, c'est qu'il faut le coller de la plante, c'est-à-dire là où on a la séparation entre les branches et les racines, mettez-les un tout petit peu plus bas que le niveau de la terre. Je vous dis un tout petit peu plus bas, ça sera environ 5 cm. Comme ça, ça protège un peu ce collet s'il vient quelques gelées contre... c'est ça qui est vraiment sensible chez la plante quand on la transplante. Donc mettez-les un tout petit peu plus bas que le niveau de la terre et puis il n'y aura aucun problème.
D'accord.
Merci beaucoup, Katou, et merci Véronique merci d'avoir appelé.
Vous avez une super émission, hein. Je suis super contente.
Merci Véronique, à très bientôt, bon week-end.
Alors, bonne journée, bon week-end.
À vous aussi, merci, au revoir.
Tout comme Véronique, vous pouvez nous appeler si vous avez des questions au 0901 70 20 20 ou nous envoyer un SMS. Vous tapez le mot jardin suivi d'un espace puis de votre question et vous nous envoyez tout ça au 939. Et d'ailleurs, des SMS, on en a reçu, Sandra.
Nils qui nous écrit, il aimerait savoir s'il est possible de faire pousser un bananier. Alors Nils ne nous dit pas où il se trouve. On ne sait pas s'il est plutôt en bord du lac, en plaine ou dans les hauteurs. Il aimerait également savoir si c'est possible de faire pousser un bananier. Où trouver des graines?
Alors, le bananier, j'ai déjà essayé, je pense, 15 fois de mettre un bananier dans mon jardin et sans succès. Donc voilà, je n'ai pas non plus la science infuse, mais voilà, j'ai la main assez verte. Le bananier, je pense qu'au Jura, il faut oublier. Si on descend sur le bord du lac à Bienne, tout simplement, on voit plein de bananiers en pleine terre. Chez nous, c'est absolument impossible. Le brouillard étant le gros problème en hiver, c'est même pas tellement le froid, parce que le bananier supporterait le froid, il fait pas plus chaud à Bienne qu'à Delémont.
C'est juste l'ensoleillement qui manque, c'est ça ?
L'ensoleillement et puis la quantité de brouillard et d'humidité qu'on a durant l'hiver. Donc ça fait vraiment geler la plante à l'intérieur. Et puis le bananier ne supporte pas du tout ça. Donc non. Mais les graines, par contre, on les trouve. Il peut très bien faire germer des graines à l'intérieur chez lui et puis avoir un bananier à l'intérieur. S'il a une véranda ou même en tant que plante verte, quoi. On les trouvera plutôt sur Internet, je pense. Dans la région, on n'en trouve pas beaucoup. Et puis, on revient toujours un petit peu au même. C'est une plante tropicale qui a besoin de beaucoup d'humidité chaude. Donc, à l'intérieur, il ne faut pas oublier de bien le vaporiser pour qu'il puisse pousser.
Donc, peu de chance, en tous les cas, de faire des frappes bananes pour cet été pour Nils. Merci, Katou.
De rien.
On a aussi reçu une question de Daniela par SMS toujours qui nous demande « Peut-on mettre des cendres en poudre contre la mousse dans la pelouse ?» C'est un peu un remède de grand-mère?
Oui, alors je ne connais pas du tout ce remède de grand-mère. J'ai jamais entendu ça. La cendre aurait plutôt tendance à être un peu infertile. Je dis bien un petit peu infertile. Donc j'ai un petit peu des doutes que ça fasse partir la cendre. Je ne m'aventurerais pas à faire ça parce que, en plus, enfin, ça dépend. Si c'est un endroit où il n'y a pas du tout de passage, on peut toujours tenter, mais après, la cendre, quand il pleut, ça fait quand même quelque chose de pas très, très propre. Donc, à essayer. Mais je ne connais pas du tout ce remède de grand-mère sur la mousse.
Mais alors, si Daniela, elle a envie de faire quelque chose contre sa mousse dans la pelouse, vous avez peut-être un autre remède, Katou ?
Oui, alors il faut savoir que la mousse, elle pousse de toutes les manières où il y a de l'ombre. Donc voilà, il faut déjà voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener le soleil sur le sol, à cet endroit-là. Bien souvent, c'est sous des grands conifères ou des choses comme ça. Donc vu que là, on ne peut pas abattre un conifère comme on veut, il y a des moyens mécaniques ou des moyens chimiques. Aux mécaniques, on peut simplement enlever la mousse avec un râteau ou un balai à feuilles, un balai japonais, comme on appelle ça. La mousse n'a pas vraiment de racines, donc c'est assez facile à tirer à la main. Après, c'est clair que si on a 100 mètres carrés à faire, ça ne va pas être possible. Il existe des produits, on revient aux produits phytosanitaires qu'on trouve en magasin, qu'on peut mettre sur la mousse brunira, et après, il faudra quand même l'enlever, parce que la mousse ne va pas se désintégrer. Mais ça sera à refaire chaque année, ça c'est clair et net. Donc la mousse revient sans arrêt. Même si on ressème du gazon, ou si on ressème de l'herbe dans ces endroits-là, le manque de soleil fera que la mousse arrive. La mousse est une plante, un végétal d'ombre et d'humidité. Donc voilà, si ces deux paramètres sont réunis, la mousse reviendra.
Justement, vous êtes là avec nous pour nous répondre à toutes les questions des auditeurs. Je rappelle juste que les auditeurs peuvent donc nous appeler au 0901 70 20 20 s'ils ont une question, ou alors nous envoyer un SMS au 939 en tapant le mot jardin suivi d'un espace puis de la question, à envoyer donc le tout au 939 comme l'a fait Sylvie qui nous dit j'ai des orchidées et à chaque fois elles fanent. Elles sont sur ma tablette de fenêtre, faut-il les mettre où il fait un peu plus frais?
Des orchidées qui fanent. Alors là, je suis un petit peu interpellée parce que j'aimerais bien savoir déjà si c'est la fleur ou la feuille. Si c'est la fleur, ben voilà, c'est la fin de la floraison. Si c'est la feuille qui vient un petit peu ratatiner, on a l'impression que c'est comme une peau qui vient un petit peu âgée, un petit peu ratatinée comme ça. C'est qu'elle n'est pas assez arrosée par rapport à l'ensoleillement qu'il y a. On voit assez souvent ça derrière des fenêtres qui sont en plein sud. Alors les orchidées aiment beaucoup être plein sud, contrairement à ce qu'on peut entendre tout partout. Par contre, une orchidée qui aura le soleil 6 ou 8 heures par jour derrière une fenêtre, elle devra être arrosée plus qu'une fois par semaine. Donc, si c'est les feuilles qui viennent ratatiner parce que la plante est derrière cette fenêtre, il faudra la baigner 2 voire 3 fois par semaine de manière à ce qu'elle ait suffisamment à boire. Une feuille ratatinée d'orchidée, si on lui donne à boire, elle se retend. Donc, on arrive toujours à aller sauver in extremis, mais bon, il ne faudrait pas le faire trop souvent parce qu'évidemment, ça affaiblit la plante.
Mais du coup, elle peut la laisser en bord de fenêtre.
Bien sûr, elle risque rien. Elles doivent être en bord de fenêtre. Elles se plaisent là. Une orchidée qui sera dans un endroit plus frais ne sera pas du tout à l'aise. Elles aiment le chaud. Voilà. Mais je pense qu'il fait trop chaud derrière cette fenêtre. Peut-être même qu'il y a encore un radiateur sous cette fenêtre. Hein. On est juste encore dans une période où ça chauffe. Donc, il faudrait l'arroser, enfin la baigner 2 à 3 fois par semaine. En veillant toujours bien de bien les faire essorer hein, quand on a fini.
Elles résistent aux intempéries ou pas du tout ?
Pas du tout.
Si elles sont au bord de la fenêtre, qui fait comme ces temps-ci, hein, elles sont en bord de fenêtre, il a fait énormément chaud,
oui.
Le soleil avec la réverbération a donné beaucoup de chaleur donc aux orchidées. Et puis bah là, il y aura un changement de température qui va rendre la fenêtre plus froide. Donc est-ce qu'à ce moment-là, il faut la changer ou on la laisse quand même en bordure de fenêtre et c'est au niveau de l'entretien qu'on s'en occupe le plus?
On peut la laisser là où elle est. Il faut juste faire attention que les fenêtres. Enfin, maintenant, on a aussi des fenêtres qui sont de bien meilleure qualité qu'il y a quelques dizaines d'années. Il faut juste faire attention que les feuilles ne touchent pas les fenêtres parce que si vraiment ils viendraient du froid, bon c'est pas le cas, mais il se pourrait que les feuilles jaunissent ou viennent brunes, mais il faut simplement réguler l'arrosage selon les températures.
Et là il y a Sylvie justement qui rajoute, elle vient de nous renvoyer un message en disant, c'est les deux feuilles et les fleurs.
Un tout fan. Donc c'est vraiment un manque d'eau alors. C'est vraiment un manque d'eau. Si les feuilles se ratatinent, c'est vraiment le signal. Sitôt que ces feuilles viennent toutes nervurées comme ça, toutes ratatinées, c'est qu'il manque d'eau. Donc vous pouvez sans problème les baigner 2 fois, voire 3 fois par semaine. Laissez-les bien tremper, même une demi-journée, il n'y a aucun problème. De manière à ce qu'elles arrivent vraiment bien à faire des réserves d'eau. Et puis si vraiment vous n'arrivez pas à gérer ça, essayez de la mettre sur une fenêtre qui sera à l'est. Comme ça, elles ont quand même un petit peu de soleil le matin, le temps qu'elle se requinque.
Imaginons que Sylvie ait suivi vos conseils, hein, qu'elle l'ait déjà fait, qu'elle ait tout tenté. Est-ce qu'il y a une petite soie recette de grand-mère, je pense au jus de citron ou des fois à l'eau gazeuse qu'on peut mettre dans les roses, parce que ça leur fait du bien. Est-ce qu'il y a une petite recette naturelle pour les requinquer, ces orchidées?
Non, des recettes naturelles, je n'en connais pas. Par contre, on a toujours tendance un petit peu les orchidées. Voilà, on les achète, on les pose sur le bord de la fenêtre et il se passe 2, 3, 4 ans et puis on ne leur change jamais de pot, on ne leur donne pas d'engrais. Donc, c'est des choses qu'il faut penser à faire. C'est vrai que l'orchidée, naturellement, n'aurait pas besoin de pot. On la met simplement en pot chez nous parce que, vu que c'est une plante parasite, normalement, elle s'accroche sur quelque chose d'autre. Donc, il faut bien la mettre quand même dans un pot et puis on peut sans problème doubler la grandeur de ce pot, changer le substrat. On trouve des substrats qui sont faits uniquement en copeaux. Donc ça redonne aussi un peu d'acidité à la plante. Et puis une fois par mois dans le bain, il faudrait vraiment penser à mettre quand même de l'engrais spécial orchidée.
Merci beaucoup Katiou. Et des SMS, vous êtes nombreux, vous êtes un peu frileux au téléphone ce matin, mais même si vous êtes en pyjama, on ne vous voit pas, mais on a pas mal de SMS, dont un de Denis, Aileen.
Exactement, la Denis qui nous demande quelle est la meilleure période pour greffer un pommier.
Alors, les greffes se font toujours lors de l'arrêt de la végétation. C'est-à-dire qu'on va faire ça sur l'hiver parce que la plante va être un petit peu blessée et puis autant faire ça quand elle n'est pas en végétation. Donc, on va faire ça lors de l'arrêt de la végétation. Donc, entre, qu'est-ce qu'on va dire, fin décembre et fin février. Voilà.
Et ben voilà pour Denis, donc il peut donc suivre vos conseils. Et
il y a quelqu'un d'autre qui demande des conseils en cœur, c'est Josiane de Boncourt.
Oui, j'allais vous le dire justement, Josiane qui n'en peut plus, elle n'en peut plus de quoi, Eline ?
Elle n'en peut plus des chats qui viennent faire leurs besoins dans son jardin. Elle a essayé tous les remèdes naturels afin de protéger le chat aussi, mais surtout son jardin. Elle demande si nous, on a une solution qui, justement, pourrait faire partir ces chats et leurs excréments de sa terrasse.
Oui, il y a une solution radicale pour Josiane de Boncourt, c'est acheter un chien.
C'est un remède naturel. Hein.
C'est un remède super naturel, pas de problème. Les chats, le problème récurrent de tout propriétaire d'un terrain à plein pied ou d'une terrasse à plein pied. Il existe, on disait, beaucoup de remèdes naturels, mais visiblement, elle a déjà tout essayé. Donc, dans le commerce, on trouve des appareils à ultrasons qui fonctionnent très, très bien. Donc, c'est-à-dire que ça fonctionne avec un détecteur de mouvement sitôt que n'importe quel mammifère passe devant la cellule de cet appareil, ça déclenche un bruit ultrason qu'on entend quand on est jeune, mais qu'on entend moins quand on prend de l'âge, donc c'est pas vraiment un problème.
Ça ne fera pas partir les petits vieux, mais non, juste voilà. Les enfants, par exemple.
Exactement. Et donc, ces ultrasons sont très efficaces, donc c'est à mettre dans un angle bien précis de la maison pour couvrir le maximum de surface là où le chat passe. Il faut essayer vraiment de savoir. En général, les animaux, ils ont toujours des rituels de passage, ils passent toujours à la même place, donc il faudrait pouvoir mettre cet appareil de manière à ce que cette cellule prenne le passage du chat. Et puis les chats, ils ont l'habitude d'aller faire toujours leurs besoins à la même place, donc s'il est dérangé 3, 4, 5 fois, ben, il va chercher un autre voisin, malheur pour ce pauvre voisin, mais, et puis il laissera Josiane tranquille. Donc voilà, c'est plutôt les ultrasons qui sont le plus efficaces.
D'accord, parce qu'il existe aussi des répulsifs pour chats, hein, alors qu'ils ne sont pas du tout naturels, on est bien d'accord. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Je crois que c'est en odeur, alors c'est quelque chose de solide.
Alors oui, c'est répulsif pour chat et être humain. Donc, sitôt qu'il vient un peu de soleil et qu'il fait chaud, ça sent très très fort. Donc si c'est tout au bout du jardin, à 100 mètres, ça ne nous dérange pas trop. Après, si c'est une terrasse, c'est un petit peu plus problème. Et puis en plus, ces répulsifs pour chat doivent être renouvelés à chaque fois qu'il pleut. Donc vu qu'on est dans une région où il pleut quand même assez fréquemment, c'est un travail assez costaud à faire. Donc vraiment, l'ultrason est bien plus efficace.
Et Katiou, juste avant qu'on se quitte, car oui, hein, l'heure approche, on a encore un appel d'un auditeur. Bonjour.
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 Michel Grandfontaine.
Bonjour Michel.
Bonjour
Michel.
Bonjour.
Écoutez, on a un palmier dattier, et puis on a les feuilles qui fanent. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Vous l'avez où? À l'intérieur?
À l'intérieur, oui.
Ouais, et puis c'est les feuilles de l'extérieur de la plante ou plutôt au cœur de la plante qui fanent?
C'est à l'extrémité.
Donc sur le bout de vos... Je vous pose trois questions pour arriver à situer. Donc sur le bout de votre palme, hein, il y a la palme, et puis au bout, ça vient un peu brun, ça sèche.
Absolument.
C'est vraiment les pointes. Donc c'est un manque d'humidité, tout simplement. Tout ce qui est palmier, que ça soit d'intérieur ou d'extérieur, ce qu'on peut sortir quand il vient le printemps, qu'on sort de la véranda, souvent on a la pointe des feuilles qui sèchent. Et ça, c'est bien souvent un manque d'humidité. Parce que là, on sort de l'hiver, on a quand même bien chauffé nos maisons, donc en général, c'est quand même très très sec, hein, dans nos maisons, parce que les humidificateurs sont plus trop à la mode. Donc ces plantes qui ont besoin d'une certaine humidité quand même, qui est le palmier dattier n'a pas besoin de beaucoup d'humidité, mais plus que ce qu'on peut trouver dans nos appartements. Donc automatiquement, le bout des palmes sèche. Donc c'est pas bien grave. Si ça vous dérange au niveau visuel, vous pouvez sans problème les couper, mais ça ne va pas atteindre la plante, donc elle ne va pas mourir. Elle est juste vraiment bien moins belle. C'est tout ce qui lui arrive.
Parce qu'on a déjà coupé pas mal. Hein.
Ouais. Et puis ça ressèche. Ouais. Si vous
ouais, ça ressèche.
Il est grand?
Oh, il fait quoi? 1m50, 1m60.
Si vous auriez possibilité de le vaporiser, peut-être. Ça serait la meilleure chose à faire, c'est de le vaporiser. Simplement avec un petit vapeau-pied de l'eau. C'est la seule chose qui peut vraiment l'aider.
Ah d'accord.
Ouais.
Il faut l'arroser souvent?
Non, il s'est arrosé. Le pot à quelle grandeur à peu près?
Oui. Bon, il fait quoi de diamètre 200, 250, ouais, 200.
Ah, vous avez un beau grand pot alors.
Oui.
Je parle du pot, hein, donc. Hein.
Oui.
Oui, alors il faut l'arroser.
Même ça, il me paraît petit, ouais.
Moi, je le trouve grand et vous petit. Alors, il faut arroser ça une fois par semaine, mais avec modération. C'est des plantes qui poussent dans des contrées qui sont très, très sèches. Hein. Le palmier dattier, on le trouve beaucoup en Afrique du Nord. Donc là, il pleut peut-être deux ou trois fois par mois à tout casser, quelques gouttes. Donc, il ne faut vraiment pas lui donner beaucoup d'eau. Si vous lui donnez trop d'eau, vous verrez tout de suite la pointe de ces palmes qui sont maintenant brunes vont venir jaunes. Donc, moi, je dirais, si vous lui donnez un demi-litre à un litre d'eau par semaine, c'est bien assez. Vraiment bien assez. Puis il faut faire attention que ça soit bien drainé dans le fond du pot. Parce qu'on a tendance à toujours beaucoup arroser et puis après, c'est très, très mouillé dans le fond. Donc, ça va
oui,
porter à la mort.
C'est bien drainé parce qu'on arrose, tout d'un coup, ça coule en dessous.
Ah bah super, alors c'est parfait comme ça. Mais vaporisez-le.
Michel, un grand merci. On espère
beaucoup.
Que
votre
ça va bien
se
passer
mieux.
Pour vous. Merci d'avoir appelé. Un excellent week-end.
Bonne journée.
Au revoir, Michel. Merci.
Au revoir.
Ben voilà, c'est l'heure pour nous de nous dire au revoir. On vous attend nombreux la semaine prochaine. Vous serez en compagnie d'Eileen et Stéphanie. Cathy, on vous remercie de vous être levée aux aurores et de partir maintenant à votre travail.
Avec
merci
plaisir.
De nous avoir
merci
informés.
Beaucoup,
merci de nous avoir renseignés. Et bon week-end, donc, de la part des jardinières. Bon week-end de Pascal.
Bon week-end.
Belle fin de journée.
7h, 8h. Les jardinières.